Non, non, c'est ça. Pour contrôler l'heure. Voilà, bonjour à tous. Et voilà, merci aux sœurs et aux amis du monastère de m'inviter, de m'accueillir dans ce lieu superbe. Je viens de découvrir, puisque je viens d'arriver, mais déjà, c'est vrai que le cadre, ce qu'on voit à proximité, est absolument magnifique. Et donc, je pense que c'est un cadre particulièrement accorde avec le thème qu'on a mis au centre de cette conférence, que c'est l'écologie intégrale. Alors, donc je vais vous dire un petit peu à partir d'où je parle de l'écologie intégrale. Et alors, d'une part, mon travail principal est à l'Institut catholique de Paris. Je suis enseignante-chercheure et surtout dans le domaine de l'économie et de l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est mon travail principal. Et puis, j'ai une mission... une petite mission à côté de ce travail, que c'est à la Conférence des évêques de France, une mission qu'on appelle écologie et société. Et c'est justement à cause et en lien plus particulièrement avec cette mission à la Conférence des évêques que j'ai pas mal travaillé sur la question de l'écologie intégrale. Ceci dit, je viens de parler d'économie sociale et solidaire. Pour moi, écologie et économie sociale et solidaire sont deux choses qui vont ensemble et qu'on ne peut pas les séparer. Mais c'est vrai que l'approche plus écologique, je l'ai surtout travaillée dans ce travail avec les évêques et donc pour les communautés chrétiennes. Alors, c'est surtout à partir de là que je vais un petit peu aborder la question de l'écologie intégrale. Vous savez, écologie intégrale, c'est un terme qui surtout a été introduit ou beaucoup utilisé par le pape François dans l'encyclique qui s'appelle Laudato Si. Alors qu'en français, on le traduit « loué sois-tu », parce que Laudato Si, c'est l'expression en italien ancien, c'est le premier verset du cantique de saint François d'Assise. Vous savez, ce cantique qui s'adresse de louange à Dieu, qui fait référence à tous les êtres de la nature. Et donc, c'est pour ça que le pape François a choisi Laudato Si pour intituler cette encyclique. Et donc, c'est dans cette encyclique, Laudato Si, qui a été publiée en 2015, qui, justement, apparaît comme notion centrale, la notion d'écologie intégrale. Et donc, c'est un petit peu autour de cette notion que je vais voilà, faire une première réflexion avec l'idée qu'ensuite on puisse échanger avec vous. Alors, je vais commencer par dire quelque chose en général de l'encyclique parce que je trouve que c'est une encyclique très particulière. Pour moi, c'est une encyclique historique. C'est-à-dire, c'est une encyclique pour moi que dans la tradition de l'Église et dans ce que dans l'Église on appelle la pensée sociale de l'Église, c'est tous les documents de l'Église qui abordent les questions de société, pour moi c'est une encyclique qui marque un avant et un après. Et donc, voilà, je vais essayer de vous dire pourquoi cette encyclique est très importante. Et je vais le faire premièrement en disant, pour moi, il y a de la nouveauté dans cette encyclique du point de vue de la forme. Donc, je vais justement signaler rapidement pourquoi elle apporte quelque chose de nouveau par rapport aux encycliques précédentes. Et ensuite, vous dire un petit peu sur le contenu, pourquoi il y a aussi quelque chose de nouveau. Alors, peut-être, comme je vais parler surtout de l'encyclique, j'aimerais savoir combien parmi vous ont lu l'encyclique, au moins partiellement, pour savoir un petit peu. Oh, mais alors là, vous êtes, je parle devant des experts. Donc, voilà. Donc, je peux aller assez directement au thème. L'encyclique, donc première chose, je veux la situer dans le contexte dans lequel elle est apparue. Et elle est apparue 5 mois avant la COP21. Je pense que vous vous souvenez de la COP21, ce grand sommet sur le climat qui a lieu tous les ans. Et la COP21, qui a été un des sommets très importants, a eu lieu en décembre 2015 à Paris. Et c'était un sommet particulièrement important parce que la communauté internationale devait se mettre d'accord sur un petit peu l'accord international qui devait remplacer le protocole de Kyoto en termes de climat. Donc voilà, c'est un accord sur lequel on avait beaucoup d'attentes et cette encyclique est apparue quelques mois avant ce sommet qui a eu lieu à Paris. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les premiers qui ont parlé de l'encyclique, ce ne sont pas les chrétiens. Les premiers qui ont parlé de l'encyclique, c'est les politiques. C'était à l'époque François Hollande qui était le président, c'était à l'époque Ségolène Royal qui était la ministre de l'Environnement. C'est eux les premiers qui ont parlé de l'encyclique Laudato Si. Parce qu'ils ont trouvé dans l'encyclique quelque chose qui allait justement dans le sens de ce qu'ils voulaient provoquer dans cet accord, dans ce rassemblement de la COP21. Et donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point ce document, que certes, c'est un document du Vatican, et donc qui s'adresse avant tout aux chrétiens, mais comme tous les documents de la pensée sociale de l'Église, il ne s'adresse pas exclusivement aux chrétiens, il s'adresse à toutes, alors comme disent en général les encycliques sociales, à tout homme de bonne volonté. Alors c'est intéressant parce que Laudato Si, quand il est dans l'introduction, il dit que ça s'adresse à toute personne qui habite la terre. Donc vous voyez, pour Laudato Si, il ne faut même pas avoir de la bonne volonté pour pouvoir la lire. Donc c'est un document qui s'adresse à toute l'humanité et non pas uniquement à la communauté chrétienne. Alors, ça marque parce que je pense que c'est assez exceptionnel, surtout vous savez en France, c'est un pays très laïque, pour que les politiques et le gouvernement parlent, s'emparent d'un texte religieux, et ça veut dire que c'est très exceptionnel. Donc pour moi, ça c'est un élément très important pour et apprécier justement ce qu'aujourd'hui apporte ce texte à toute la réflexion écologique. Donc voilà, je commence par dire ce qui sont pour moi un peu les nouveautés en termes de la forme, parce que comme je disais, c'est un document. Alors je ne vais pas demander si vous avez lu d'autres encycliques que Laudato Si, mais sûrement vous avez entendu parler d'autres encycliques. Mais les encycliques, en fait, sont des documents qui ont un langage très particulier et qui est souvent très difficile à comprendre. C'est voilà, c'est un peu un jargon qui, je dirais, même les cathos, nous ne comprenons pas toujours. Donc, en général, ces documents ont un langage très particulier. Et Laudato Si, c'est le premier élément pour moi qui le différencie des autres encycliques, c'est qu'il a un langage accessible. C'est un document qui, voilà, qui peut se lire, même si on n'a pas une formation sur les questions religieuses ou catholiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée depuis que l'encyclique a été publiée. Je suis allée parler de l'encyclique dans beaucoup des communautés chrétiennes et j'étais surprise parce que dans beaucoup, beaucoup d'endroits, j'ai trouvé des groupes qui se sont instantanément créés pour lire ensemble l'encyclique, ce que je n'avais jamais entendu pour une autre encyclique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne expliquer ou interpréter, c'est quelque chose qui est accessible. Donc premier élément important de cette encyclique, le langage, qui la rend accessible à tout le monde et qui permet que ce soit justement quelque chose qui met en dialogue l'Église et le monde. Parce que c'est ça le rôle des encycliques sociales, c'est de permettre le dialogue entre l'Église et le monde. Donc premier élément, le langage. Deuxième élément, qui est pour moi très intéressant dans cette encyclique, c'est la structure. L'encyclique est composée de 6 chapitres. Et alors, si vous l'avez lu, vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes dans cette encyclique. Beaucoup de choses. Et parfois, je pense, on peut avoir un peu du mal à voir la logique entre les chapitres. Moi, je trouve que la structure de cette encyclique est une structure dialogique. Je m'explique. Et les chapitres sont faits comme une forme de dialogue entre l'Église et le monde. Alors, je reprends très rapidement les 6 chapitres pour expliquer ce que je veux dire. Le premier chapitre, c'est ce qui se passe dans notre maison commune. Donc, c'est un peu un état des lieux de ce qui se passe au niveau écologique. Donc, on part du monde. Le deuxième chapitre, c'est l'évangile de la création. Donc, deuxième chapitre, on va du côté de la tradition chrétienne pour voir qu'est-ce que nous dit l'Église sur la création. Donc là, on va du côté de l'Église. Troisième chapitre, c'est les racines humaines de la crise écologique. Donc là, on revient au monde pour dire d'où vient cette crise écologique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc, côté monde. Le quatrième chapitre, c'est le chapitre central, c'est celui qui s'appelle écologie intégrale. Et toutes ces notions d'écologie intégrale va être fondée dans les grands principes de la pensée sociale de l'Église. Donc, on est du côté de l'Église à nouveau. Et chapitre 5, les pistes d'action. Donc, on revient au monde. Et chapitre 6, c'est un chapitre où il va parler de la conversion écologique. Donc, on revient à la dimension plus spirituelle. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que pour moi, l'encyclique est très intéressante si on la lit justement comme un dialogue entre l'Église et le monde autour de la question écologique. Donc voilà déjà une nouveauté aussi du point de vue de la structure dans ce document. Et troisième nouveauté au niveau de la forme de cette encyclique, c'est le nombre des citations, des notes en bas de page qu'il y a dans le document. L'encyclique fait référence à beaucoup, beaucoup de travaux faits par différentes églises locales par le monde. Donc, quand il explique quelque chose, il va faire référence à des documents qui ont été publiés par l'église de Philippines ou du Brésil ou de l'Inde. Donc, il fait référence à plein de documents déjà écrits par des églises locales d'autres pays. Et ça, pour moi, est très intéressant également, parce que vous avez les encycliques qui sont signées par le pape. Donc, c'est un document qu'en principe, il y a un auteur, que c'est le pape. Mais avec toutes ces notes, ça montre bien que cette pensée, ce n'est pas la pensée d'un homme, aussi illuminé soit-il. La pensée sociale de l'Église, c'est une pensée qui vient de la base, et c'est une pensée qui est construite par la communauté chrétienne. Et dans cette encyclique, c'est très évident, parce que justement, tout ce qui est dit est mise en lien et soutenue par des documents et des réflexions qui ont déjà été apportées par d'autres églises locales. Donc voilà trois nouveautés, si vous voulez, au niveau de la forme, par rapport, certes, à d'autres documents qui ont un peu le même statut, c'est-à-dire des encycliques sociales. Premier élément, donc, qui me semble important pour dire pourquoi ce document est assez singulier et particulier et original. Deuxième élément, pour dire sa nouveauté, c'est le thème. C'est le thème et c'est l'approche du thème. C'est la première encyclique sur la question écologique. Je ne sais pas si vous êtes des personnes engagées au niveau écologique, mais vous savez que l'Église a été accusée très longtemps de ne pas avoir pris la question écologique à temps, et même comme une espèce de désintérêt, et parfois même avec une mauvaise interprétation du récit de la création dans le livre de la Genèse, comme si ça avait poussé l'humain à surexploiter, à dominer la terre. Et donc, il y avait un petit peu tout ce arrière-fond de comment la communauté chrétienne, en fait, était même parfois accusée de coupable d'avoir créé la crise écologique. Donc, il y avait tout ça derrière. Et en fait, voilà, il y a eu déjà d'autres textes, mais plus courts, des papes sur la question écologique. Mais là, c'est la première fois qu'on a une encyclique, c'est-à-dire un document, un des premiers, les plus importants documents du Vatican, un document qui est complètement consacré à la question écologique. Donc voilà, ça c'est aussi une nouveauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'approche de la question écologique dans l'encyclique. Parce que la question écologique va faire référence évidemment à l'environnement, à tous les problèmes environnementaux, donc tout ce qui concerne les ressources naturelles, la question de l'eau, de la terre, de la biodiversité, de la pollution, voilà, toutes les questions dont aujourd'hui on entend beaucoup parler sur l'épuisement et la dégradation des ressources naturelles. Mais l'encyclique va aborder cette question environnementale d'un point de vue très particulier. Premièrement, elle va dire que la question écologique est environnementale, mais elle est également, au même titre, sociale. Et donc, ça c'est un élément central de l'encyclique, c'est qu'on ne peut pas séparer la nature, les êtres de la nature et l'être humain. Et que c'est une même question, une même destinée, celle de la nature et celle de l'être humain. Donc, je vais y revenir, mais là, il y a une question centrale de l'encyclique, c'est que l'écologie est une question humaine. L'écologie est une question sociale. L'écologie, ce n'est pas uniquement la gestion des ressources naturelles. L'écologie, c'est la gestion du vivant, la question de toute notre, de la destinée de la vie sur la Terre. Donc, voilà, premier élément très important, l'écologie est complètement liée à une question sociétale. Donc, on ne peut pas séparer ressources naturelles de questions humaines et sociales. Deuxième chose, c'est que ça touche le social, mais ça touche donc, du coup, toutes les dimensions qui concernent l'organisation de la vie de la société. Et donc, l'écologie, c'est une question politique. L'écologie, c'est une question politique. Et le fait que, comme je disais au début, ce soit les hommes et les femmes politiques qui se sont emparés en premier de l'encyclique Laudato Si, ça montre bien que l'approche de la question écologique dans l'encyclique est une question politique. C'est-à-dire, la question, le problème aujourd'hui des ressources naturelles, de la nature, ça concerne et ça interroge notre manière de vivre ensemble sur Terre. Et donc, voilà, la politique qui est par excellence justement ce qui aborde l'organisation de la vie sur Terre. Donc, question sociale, question politique. Et donc, quand je dis politique, j'intègre tout, aussi l'économie, évidemment, parce que l'économie, pour moi, ça fait partie de la dimension politique dans ce sens de gestion de la vie en commun. Et puis, troisièmement, et ça c'est très important pour le pape, la question écologique, ce n'est pas seulement une question sociale, ce n'est pas seulement une question politique, c'est également une question spirituelle. L'écologie, c'est une question spirituelle. C'est-à-dire que dans notre rapport à la Terre, dans notre rapport à la nature, il se joue quelque chose de notre rapport à Dieu. Il se dit quelque chose de notre rapport à Dieu. Et donc, là, il y a quelque chose, alors, pour nous chrétiens, ça va être le lien avec notre Dieu chrétien, mais quand on dit dimension spirituelle, c'est pas uniquement le Dieu chrétien, c'est le fait que la nature est toujours un lieu qui nous permet de faire une expérience de transcendance, une expérience de, justement, de se sentir à l'intérieur de quelque chose de plus grand que soi. Et donc, voilà, l'écologie apparaît également comme un enjeu spirituel. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose de très particulier dans l'écologie intégrale telle qu'elle est abordée par le pape François, c'est que l'écologie, ce n'est pas uniquement un problème qui touche la nature, donc les animaux, les végétaux, les minéraux, mais ces éléments-là sont à mettre en lien direct avec les humains, et la communauté humaine, et avec aussi son expérience spirituelle. Donc voilà, deuxième élément très général, mais pour situer justement encore une fois l'originalité de l'approche du pape François dans l'encyclique. Et alors, je viens maintenant à vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Alors, comme je disais, c'est un document qui est très difficile à synthétiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses et en fait je me rends compte ayant parlé avec beaucoup de personnes sur l'encyclique que chacun a un peu sa lecture propre de l'encyclique. Alors je vais donc vous partager ma lecture de l'encyclique. C'est pas seulement la mienne parce que c'est du travail que je fais en collectif avec d'autres personnes, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas la seule lecture possible qu'on peut avoir de l'encyclique. Je ne vais pas vous présenter l'encyclique et la notion d'écologie intégrale en reprenant chapitre par chapitre ce qui est dit. Je ne vais pas faire ça, ça vous pouvez le lire et j'espère que ceux qui ne l'ont pas lu ou peut-être même ceux qui l'ont lu après la conférence vont avoir encore plus envie de relire l'encyclique. Je vais vous partager plutôt un regard plus transversal du contenu de l'encyclique et à travers ce que j'ai identifié comme trois grands principes, comme trois fondamentaux qui traversent toute la réflexion de l'encyclique. Donc voilà, c'est pas ce qui est dit dans le chapitre 1 ou dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3, mais c'est plutôt comme trois éléments que pour moi traversent toute l'encyclique et sont un peu comme les fondamentaux qui permettent justement de relier la question environnementale avec la question sociale et politique et avec la question spirituelle. Alors, ces trois principes, je les formule avec une expression, trois expressions qui sont très proches. Le premier principe est une petite phrase qui apparaît très souvent dans l'encyclique. Si vous l'avez lu, je suis sûre que s'il y a une chose que vous vous souvenez, c'est bien là. C'est l'expression « tout est lié ». Tout est lié, voilà, ça revient plusieurs fois tout au long de l'encyclique, « tout est lié ». Donc ça, c'est autour de cette petite phrase que je vais présenter un petit peu ce qui est pour moi le premier principe de l'encyclique, le premier fondement. Le deuxième, c'est, alors je le formule avec une phrase très proche, c'est « tout est donné, tout est donné ». Je vais y revenir, mais pourquoi? Parce que la gratuité, le don, est un élément central de l'approche écologique de l'encyclique. Donc « tout est donné ». Et le troisième principe, je le formule avec une expression aussi très proche, qui est que tout est fragile, tout est fragile. Donc aussi, parce que l'encyclique va parler beaucoup de fragilité, fragilité de la terre et fragilité de l'humain, mais il va parler de cette fragilité d'une manière très particulière. Donc voilà, c'est autour de ces trois principes que je vais vous présenter un petit peu ce que pour moi est au cœur de l'encyclique et donc qui permet de comprendre cette notion d'écologie intégrale. Alors, je commence par le premier. Donc, tout est lié. Alors, tout est lié, le pape dit premièrement, quelque chose que j'ai déjà évoqué, qu'il y a un lien structurel entre la nature et l'humain. Et qu'on ne peut pas séparer comme deux dimensions différentes ce qui est la nature et ce qui est l'être humain. Donc il y a une interdépendance radicale, existentielle, structurelle entre l'humain et la nature. Et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et vous savez, c'est là qui vient cette phrase qu'on a beaucoup entendue de l'encyclique qui dit « La clameur de la terre et la clameur des pauvres » c'est un seul et même cri. Pour le pape, on ne peut pas séparer ce qui est aujourd'hui la pauvreté et la souffrance de la terre de la pauvreté humaine. Donc ces deux pauvretés sont complètement reliées parce que la vie de l'un dépend de l'autre. On ne peut pas penser la vie humaine sans la nature, on ne peut pas penser la vie de la nature sans l'humain. Donc là, il y a première interdépendance centrale. Et quand il va expliquer justement cette interdépendance, il va dire que là, il y a quelque chose à faire évoluer, surtout un peu dans notre approche en tant que chrétiens, qui avons mis l'être humain au centre de la création. Et il dit, c'est vrai, dans la Bible, l'être humain est central parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on a tellement pris de manière radicale cette centralité de l'être humain dans la création qu'il est devenu exclusif. C'est-à-dire que toutes les autres créatures de la création, on a pensé qu'ils étaient au service de l'humain. C'est-à-dire que les plantes, les animaux, les minéraux, s'ils ont été créés par Dieu, c'est au service de la vie humaine. Et là, le pape dit, ça, c'est pas vrai. Et ça, il y a là la première conversion à faire. Il va parler, il va condamner quelque chose, il utilise un terme un peu difficile, mais il dit, on est tombé dans une sorte de anthropocentrisme déviant. C'est-à-dire, on a tellement mis l'humain au centre de la création, qu'on a pensé que tout le reste était au service de l'humain et que donc on pouvait avoir une relation instrumentale avec toutes les autres créatures. Et c'est ça la première conversion à faire. C'est de dire, et là il le dit très clairement, toute créature créée dans notre terre a une valeur en soi. C'est-à-dire que toute plante, tout animal, tout insecte, toute créature a une valeur en soi indépendamment de l'utilité pour l'humain. Donc voilà, chaque créature dans la création a une valeur en soi. Et il y a une interdépendance vitale entre la vie de toutes les créatures. Mais chaque créature a une valeur en soi. Les autres créatures non humaines n'ont pas été créées uniquement pour satisfaire des besoins humains. Donc voilà, là il y a quelque chose à replacer qui est très importante. Et là ça touche un peu notre anthropologie chrétienne et justement le fait de dire c'est vrai que l'humain a été créé à l'image de Dieu et qui est central dans la création, mais ça ne veut pas dire que les autres créatures ont été créées au service de l'humain. Voilà un premier déplacement qu'il nous invite à faire dans la manière de regarder la création. Donc, tout est lié. Voilà, relation entre l'humain et la nature. Et puis, il dit, tout est lié. Ça veut dire que toutes les dimensions de la vie sont reliées. Et vous savez, ça veut dire que l'économique, le politique, le social, l'environnemental, toutes les dimensions doivent être reliées. Et là aussi, pour moi, il y a une sorte de révolution à faire. Parce qu'on est dans des sociétés où, pour aborder des problèmes, on commence par les séparer. Et il y a le spécialiste de l'économie, le spécialiste de la politique, le spécialiste de l'écologie. Chacun a son domaine de spécialisation. Mais on fait ça partout. Si vous êtes aussi, puisqu'on est dans une église, on peut parler des communautés chrétiennes. Vous savez, dans les paroisses, il y a le spécialiste de la liturgie, le spécialiste de la catéchèse, le spécialiste de la pastorale sociale. Et chacun préserve bien son domaine de spécialité. Et surtout que quelqu'un d'autre ne vienne pas me dire que ce qu'il faut faire, parce que c'est moi qui sais ce qu'il faut faire dans le domaine où je suis censé être le spécialiste. Et donc, le pape dit, la vie ne se fait pas justement par addition des spécialités, se fait par intégration. Vous voyez, là commence à paraître cette idée d'écologie intégrale. Intégrale, ça veut dire que chaque dimension doit être toujours conçue en lien avec les autres dimensions. Et que les questions économiques, on ne peut pas les aborder uniquement de manière économique, mais qu'il faut les aborder en lien avec le social, avec le politique, avec le biologique. Voilà, que chaque dimension doit être pensée et abordée en relation avec les autres. Donc là, il y a aussi quelque chose que pour moi, pour nous, pour notre société, est révolutionnaire, c'est sortir d'une organisation de la vie où on va toujours segmenter. Regardez le gouvernement, regardez nos politiques sociales. Il y a chaque ministère a son domaine de spécialité et donc voilà, si c'est un problème de logement, on va voir le guichet qui s'occupe du logement, si c'est un problème de santé, on va voir la santé et donc tout le problème qu'il y a quand les gens en fait n'ont pas uniquement un problème de logement, indépendamment de celui santé. Et quand il faut faire le lien entre les spécialistes d'un domaine et celui de l'autre, c'est toujours très compliqué. C'est ça ce qu'il veut dire avec cette approche intégrale, tout est lié, il faut relier toutes les dimensions de la vie. Et alors, dernière chose sur le tout est lié, il va dire, le tout est lié, ça veut dire que ce qui est central dans la vie de toute créature, c'est la relation. Ce qui est central dans la vie, c'est la relation. Alors, là, il reprend quelque chose qui est au cœur de l'anthropologie chrétienne. L'anthropologie chrétienne est une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, depuis toujours, on a dit que pour les chrétiens, l'être humain est avant tout un être de relation et que ce qui le constitue, c'est ses relations avec les autres. L'être humain est un être de relation. Et là, le pape, justement, va rappeler ça et va dire il faut revenir à cette anthropologie relationnelle, il faut se rappeler que la chose première qui définit un être humain, c'est justement ses relations avec toutes les autres créatures. C'est la dimension relationnelle. La relation est centrale. Ce qui fait qu'un humain soit humain, ce n'est pas tellement ou uniquement, on pourrait dire, qu'il puisse satisfaire ses besoins, qu'il puisse manger, se loger, s'habiller. Ça, évidemment, c'est des besoins de base et il faut pouvoir les satisfaire pour pouvoir vivre. Mais ce n'est pas ça qui fait un humain. Ce qui fait un humain, c'est le fait qu'il puisse se sentir en relation avec d'autres, qu'il puisse se sentir appartenir à une communauté dans laquelle, justement, il se sent reconnu par les autres comme créateur. Donc voilà, c'est la dimension relationnelle est centrale. Et le pape va dire, il y a quatre relations, il y a quatre relations qui sont à prendre ensemble. Et c'est ça qui est au cœur de cette notion d'écologie intégrale. Ces quatre relations sont les suivantes. C'est la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Donc vous voyez là, on couvre un petit peu toutes les dimensions. La relation à soi-même, la relation aux autres, le collectif, la relation à la nature et la relation à Dieu. Et donc il dit, le problème, c'est que ces quatre relations, en général, on les aborde de manière séparée, encore une fois. Il y a d'une part tout ce qui me concerne individuellement, mon projet de vie, mon projet personnel, mes besoins personnels. Il y a ensuite tous les lieux où je suis en relation, en collectif avec d'autres. Il y a ensuite ma relation avec la nature. Et puis en plus, il y a toute mon expérience spirituelle. Et ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas aborder ces quatre relations de manière séparée. Et que chacune a un impact sur l'autre. Que la relation à soi est directement liée à la relation aux autres. Vous savez, ça, il y a une question centrale parce que très souvent, on va opposer individuel et collectif. Et quand on fait du collectif, on dit souvent, je me sacrifie individuellement quand on fait quelque chose pour les autres. Et le pape dit non, l'individuel et le collectif vont ensemble. Il faut les penser de manière articulée et interdépendante. Mais la même chose, la nature et le spirituel. Et la même chose, les autres et la nature. Donc, chacune de ces relations et doit être pensée et reconsidérée en lien, en interaction avec les autres relations. Donc voilà quelques éléments, si vous voulez, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce « tout est lié ». Pour moi, je dis, vous savez, le pape utilise des termes très très forts. Il dit qu'il faut une révolution culturelle, que la conversion écologique, c'est une révolution culturelle, c'est le terme qu'il utilise. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire une révolution maoïste, parce que bon, les plus anciens doivent associer révolution culturelle à révolution maoïste, mais c'est pour dire que c'est une révolution au niveau de la culture. La culture, c'est notre manière de vivre ensemble. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire la révolution. Il dit également qu'il faut un changement de paradigme. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une question de changer quelques habitudes. On va commencer à trier les déchets, on va commencer à changer les ampoules pour des ampoules de basse consommation, on va fermer le robinet de l'eau quand on se lave les dents. Tout ça, il faut le faire et c'est nécessaire. Mais la conversion, la transformation n'est pas là. La transformation est beaucoup plus radicale, est une transformation au niveau anthropologique, est une transformation sur notre manière d'être présents dans la création les uns aux autres, à Dieu et à la nature. Donc voilà, c'est ça qu'il y a dans le tout est lié, et c'est ça qu'il y a dans cette notion d'écologie intégrale. Écologie intégrale est justement la notion qui le pape propose pour traduire un petit peu ce principe majeur de tout est lié. Et pourquoi écologie intégrale? Parce que ça vient, je pense, là, il a voulu s'inscrire un peu en continuité de la tradition chrétienne. Vous savez, là je parle à nouveau des encycliques précédentes, il y a une autre encyclique que pour moi a été aussi historique dans toute l'histoire de la pensée sociale de l'Église, que c'est l'encyclique « Populorum Progressio ». Vous savez, c'est une encyclique dans les années 60. C'est la première encyclique qui va dire que la question sociale est une question internationale. C'est l'encyclique justement qui va parler, va ouvrir la réalité des sociétés, notamment des sociétés occidentales, à la réalité du reste du monde, notamment des pays les plus pauvres. Et dans cette encyclique apparaît un terme qui est devenu une notion centrale pour l'Église, que c'est la notion de développement intégral. Développement intégral. C'était Paul VI à l'époque, et Paul VI a défini développement intégral comme le développement de tout l'homme et de tous les hommes. C'est ça la définition qu'il y a dans Populorum Progressio. Donc, c'est de dire, c'est le développement ne peut pas se penser de chaque pays séparément. Le développement, c'est universel, c'est de toute l'humanité, donc de tous les hommes, et de tout l'homme. C'est-à-dire, le développement, c'est pas uniquement la satisfaction des besoins physiques de base. Le développement concerne toutes les dimensions, le social, le psychologique, le relationnel, toutes les dimensions. Ça, c'était la définition de développement intégral. Le pape François parle de écologie intégrale. Il utilise, vous voyez, le même objectif d'intégrale, mais il l'associe à écologie. Et je pense que c'est très intéressant, parce que, d'une certaine manière, il dit, ce développement intégral, qu'on le pensait uniquement en termes humains, développement de tout l'homme et de tous les hommes, doit maintenant s'élargir à toutes les créatures. Développement intégral, justement, devient écologie intégrale, et donc ce n'est pas uniquement développement de tout l'homme et de tous les hommes, c'est développement de toute créature et de toutes les créatures, de toutes les dimensions de chaque créature et de toutes les créatures. Donc là, il y a un élargissement énorme de l'idée de développement. Mais en plus, il va dire encore plus fortement, ce qui est important, c'est les relations entre les créatures. Ce qui est central dans le développement intégral, c'est la relation entre les créatures. Donc, voilà, et c'est de là que vient cette notion d'écologie intégrale. Et je pense aussi que s'il a proposé cette notion, c'était également pour dépasser une confrontation qui existe encore et qui malheureusement, je pense, réduit l'approche écologique. Il y a parfois une opposition entre écologie humaine et écologie environnementale. Et le pape, justement, ne parle pas ni d'écologie humaine ni d'écologie environnementale. Il parle d'écologie intégrale. Il dit on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est toute la vie qui est concernée par la question écologique. Vous savez, l'écologie, peut-être il y a des écologistes parmi vous, l'écologie, c'est la science des relations. L'écologie, scientifiquement, c'est la science des relations des organismes vivants. C'est ça l'écologie, c'est ça l'objet d'étude de l'écologie. Et le pape, ça, il le prend très au sérieux. Il dit écologie intégrale, c'est justement mettre la relation au centre de la vie. Et donc voilà, mais c'est pas seulement la vie physique, c'est la vie dans toutes ses dimensions. Donc voilà le premier élément, donc et tout est lié, et en lien avec cette notion qui est une notion centrale, celle d'écologie intégrale. Ça va? Ouais. Alors, je passe au deuxième principe. Le deuxième principe, c'est... Bravo, vous me suivez. Tout est donné. Donc, tout est donné. Je disais, alors, ce n'est pas une expression qui apparaît en tant que telle dans l'encyclique, et pourtant, en fait, l'encyclique parle tout le temps de dons et de gratuité. Et le pape dit quelque chose de très fort. Il dit, en fait, dans cette transformation écologique qui est en jeu aujourd'hui dans nos sociétés, la première chose à faire, c'est de reconnaître que cette terre dans laquelle nous habitons ne nous appartient pas. Cette terre nous a été donnée. Elle ne nous appartient pas. Nous l'avons reçue comme un don, comme un cadeau. Alors, aujourd'hui, avec le droit de propriété, justement le droit de propriété, que c'est un droit reconnu par l'Église, c'est un droit qui permet de, justement, organiser la vie ensemble sur Terre. Mais ça induit à l'erreur de penser que cette Terre, en fait, nous appartenait, qu'elle était notre propriété. Et c'est ça la première chose qu'il faut reconnaître. Et il dit, il n'y a pas de conversion écologique sans faire avant tout cette expérience de reconnaître que cette terre nous a été donnée. Elle ne nous appartient pas. Et donc, vous voyez, face à cette terre, du moment qu'elle est un don, qu'elle n'est pas notre propriété, du coup, la relation à la terre change complètement. Voilà, c'est un cadeau, c'est un don qu'on a reçu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, la première conversion est celle de mettre la gratuité au centre de notre vie. C'est la gratuité dans notre rapport à la nature, mais c'est aussi la gratuité dans nos relations humaines. C'est la gratuité aussi dans notre relation à Dieu. Comment la gratuité est l'élément central, premier de nos relations. Donc tout est lié, voilà, la relation au centre, et première relation, celle de la gratuité. Comment dans nos sociétés, où vous savez, c'est des sociétés aujourd'hui organisées par le marché, donc tout s'achète, tout se vend, on a parfois oublié la place du gratuit. Et donc c'est de recentrer, de remettre au centre le gratuit, au cœur. Alors là c'est très beau, parce que là ça fait le lien avec une encyclique plus récente, du pape précédent, de Benoît XVI, il y a une encyclique, l'encyclique Caritas in Veritate. C'est une encyclique voilà, qui a été très importante et publiée par Benoît XVI. Et c'est une encyclique sur l'économie, où il y a la question économique fondamentalement. Et là, le pape dit quelque chose, Benoît XVI, que pour moi est au cœur à nouveau de Laudato Si. Il dit la gratuité, ce n'est pas quelque chose à côté du marché. Vous savez, il y a d'une part ce qu'on achète et ce qu'on vend, et puis il y a ce qu'on fait gratuitement. Il dit pas du tout. La gratuité, il faut la penser au cœur même du marché. Dans les relations marchandes, où on échange des choses qui ont une même valeur monétaire, il faut aussi laisser place à l'intérieur de ces échanges à la gratuité. Alors là, il y a une grande question, là on passe à la question économique, je ne vais pas aborder ça, mais c'est pour dire que la gratuité, ce n'est pas à mettre à côté de ce que sont nos relations habituelles, et notamment les relations marchandes, mais c'est à mettre aussi au cœur même de la relation économique et de la relation marchande. Donc voilà, tout est donné, et donc mettre la gratuité au centre des relations. Et là, c'est là que le pape, en lien avec cette idée de gratuité, va introduire une autre notion qui apparaît à la fin, mais qui est une notion pour moi aussi importante que celle d'écologie intégrale, que c'est la notion de conversion écologique. Conversion écologique. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos sociétés, on parle de transition écologique. Parce que justement, on dit, nos modèles de production, de consommation, en fait, il faut une transition. Et quand on parle de transition écologique, on voit très clairement, notamment, la partie technique, le changement au niveau technique. Il faut passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Voilà. Et donc, on parle de transition parce qu'il y a avant tout ce changement au niveau technologique, au niveau productif. Et le pape dit, non, il s'agit d'une conversion écologique. Ce qui est en jeu, c'est une conversion écologique plutôt qu'une transition écologique. Parce que le changement, et là je reviens à ce que je disais avec la révolution culturelle, le changement, ce n'est pas uniquement un changement technique. Le changement, ce n'est pas uniquement changer nos ressources énergétiques, ce n'est pas uniquement commencer à produire un peu différemment ou à consommer différemment. C'est un changement intégral, c'est un changement radical, c'est une conversion. Vous savez, quand nous parlons de conversion, Conversion, c'est un terme qu'on utilise au niveau religieux ou au niveau spirituel. C'est à ce moment-là qu'on parle de conversion. Et voilà, le pape dit, le changement à faire, et au niveau écologique, c'est de l'ordre de la conversion. Donc c'est un changement au niveau spirituel. La transition écologique, c'est une conversion au niveau spirituel. Donc il dit, et c'est pourquoi c'est une conversion et non pas uniquement une transition, parce que justement, cette question de la gratuité introduit quelque chose d'énorme dans nos relations si on le prend vraiment au sérieux. Et alors, quand il parle de ce que c'est la conversion écologique, c'est dans le chapitre 6, il va dire qu'il y a trois choses qui sont centrales pour qu'il y ait conversion écologique. Donc pour qu'il y ait justement un processus de conversion écologique, il dit qu'il y a trois éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est la gratuité, justement. C'est la gratuité et la gratitude. C'est d'être dans ces relations de gratitude à l'égard des autres, à l'égard de Dieu, à l'égard de la nature, comment justement notre posture, notre manière d'être dans le monde est marquée par cette posture de gratitude. Et gratuité, c'est justement cette reconnaissance permanente de ce qui nous a été donné. Donc, gratitude et gratuité, premier élément de la conversion écologique. Deuxième élément de la conversion écologique, il dit, il faut rentrer en relation de communion avec toutes les créatures. De communion. Alors, vous voyez, c'est énorme, parce que communion, c'est un terme que nous utilisons entre humains. Qu'est-ce que ça veut dire, rentrer en communion avec les fourmis, avec les moustiques, avec... est-ce que ça veut dire se laisser piquer? Je ne sais pas, je pense que là il y a... Mais c'est à ça qu'il nous invite, à une relation de communion. C'est-à-dire, les autres êtres vivants ne sont pas uniquement au service de l'humain. Avec eux, il y a aussi à établir une relation de communion, de communication, d'interdépendance. Vous voyez, j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la question écologique, on parle beaucoup de respecter la nature. Il faut la respecter parce qu'on l'a surexploitée, parce qu'on l'a très mal traitée. Mais le pape dit, c'est pas uniquement une question de respect. Respecter, c'est de dire, ok, je vais pas la surexploiter, je vais l'exploiter, mais de manière rationnelle. Il dit, c'est pas ça. Il faut établir avec la nature une relation de communion. Voilà. Et donc, je pense que là, il vient toute la question de la contemplation, justement, qui est une question centrale dans la conversion écologique. La nature n'est pas uniquement à utiliser, elle est à contempler. Et je pense que, voilà, c'est la contemplation que sûrement permet de rentrer dans cette relation de communion avec les autres êtres non humains. Ça, c'est le deuxième élément de la conversion écologique, la communion avec toutes les créatures. Et le troisième élément est magnifique. Il dit, le troisième élément pour qu'il y ait de la conversion écologique, c'est de l'enthousiasme et de la créativité. La conversion écologique suppose de l'enthousiasme et de la créativité. L'enjeu de la transformation écologique est un enjeu de joie. De joie. Et vous voyez comment on parle aujourd'hui, souvent les discours écologiques sont des discours qu'avec cette idée de menace, de catastrophe, parfois plutôt ça invite à la dépression qu'à la joie. Et le peuple nous dit, la transformation écologique est justement quelque chose qui doit nous produire de la joie. Parce que justement, nous avons aujourd'hui une opportunité historique d'inventer des nouvelles manières de vivre ensemble toutes les créatures sur Terre. Et ça, c'est une source de joie énorme. Et il faut que dans la conversion écologique, cet élément de joie soit visible et soit profond. Alors, de la joie et de la créativité. Et alors, je vais faire le lien avec le troisième principe, mais vous voyez, la créativité, ça veut dire que justement, il ne s'agit pas seulement de, voilà, on est menacé, donc on va essayer de se protéger pour essayer de durer le plus longtemps possible. Et il dit, c'est pas ça la conversion écologique. C'est pas essayer de protéger pour faire durer le plus longtemps. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est déployer la capacité créative. C'est inventer de nouvelles manières de consommer, de produire, de vivre ensemble, de habiter l'espace, de se déplacer. Voilà, être créatif. Aujourd'hui, la conversion écologique, c'est un appel à déployer notre capacité créatrice. Voilà ce qu'il y a pour le pape dans conversion écologique. Donc voilà, tout est donné. Donc un appel à la conversion écologique. Et donc voilà, avec ces trois éléments, gratuité, communion et créativité et enthousiasme. Et j'arrive au troisième principe. Tout est fragile. Voilà, merci. Alors, tout est fragile va être très lié à ce que je viens de dire autour de la créativité. Parce que, vous savez, je disais, le pape parle tout au long de l'encyclique de la fragilité de la terre et de la fragilité des humains. La clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est un seul et même cri. Donc c'est un document qui parle, qui met au découvert, si vous voulez, toutes ces situations de fragilité extrême auxquelles on est aujourd'hui confronté dans notre planète, dans notre monde. Donc la fragilité est présente dans tout le document. Et alors, qu'est-ce qu'on fait face à la fragilité? Et c'est là où je trouve qu'il y a une nouveauté aussi radicale dans ce document. Vous savez, quand on dit fragilité, on pense avant tout à réparer la fragilité. Quand c'est fragile, quand c'est vulnérable, voilà, on va essayer de le rendre solide, forte. Donc, on va essayer de réparer pour que ça ne casse pas. Donc, la fragilité, on pense surtout à réparer. Et le pape va nous dire, face à la fragilité à laquelle on est aujourd'hui confronté, surtout, n'essayez pas de réparer. Surtout, n'essayez pas de réparer. Ce qu'il faut, c'est inventer du nouveau, c'est créer du nouveau. Il ne faut pas réparer pour revenir à ce qui existait avant, il ne faut pas réparer justement pour pouvoir faire durer plus longtemps ce qu'on a déjà. Non, on est aujourd'hui dans une situation où nous avons une opportunité historique de créer du nouveau, d'inventer du nouveau. Donc c'est ça, la fragilité, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être créateurs d'une manière nouvelle. Alors, créateur, attention, ça ne veut pas dire fabricateur, fabricant. Vous savez, ça c'est une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui a fait la différence entre création et fabrication. Je trouve que justement c'est quelque chose qui permet de comprendre ce que le pape dit quand il dit qu'il faut être créateur. Il dit c'est deux choses très différentes, la fabrication et la création. La fabrication, c'est le travail de l'ingénieur. La fabrication, c'est on a un plan et on le met en exécution. On fabrique un produit, on fabrique un objet. Voilà. La fabrication, c'est mettre en application un plan. Il dit la création, c'est pas ça. La création, c'est justement quand face à un espace vide, on est capable de faire émerger quelque chose qu'on connaissait pas. C'est quand arrive l'inattendu, c'est quand on fait place à l'inattendu. C'est ça la création. Alors le travail artistique, justement, fait écho à cette idée de création, mais ce n'est pas uniquement les artistes qui sont créateurs. Nous sommes tous, dans notre mesure, et là où nous sommes, nous pouvons être créateurs. Vous savez, Hannah Arendt dit que la création, conçue comme ça, comme la capacité de faire émerger du nouveau, c'est ce qu'on fait, c'est le travail du bricolage. Vous savez, nous sommes tous un petit peu tous bricoleurs. Et vous savez, quand on fait du bricolage à la maison, bon, il y a des gens qui sont très experts dans le bricolage. Mais je pense, la plupart de nous, peut-être je m'avance, mais en tout cas, c'est mon cas. Quand je veux bricoler quelque chose qui a cassé, voilà. En général, le résultat final est très différent de celui que j'ai cherché au début. Et bien, c'est ça le bricolage. C'est-à-dire, on commence à tâtonner, à expérimenter, et puis ce qui arrive, ce qui prend forme, est différent de ce qu'on avait prévu. Et c'est cette capacité d'accueillir le nouveau, d'accueillir l'inattendu, d'accueillir l'imprévisible. Et donc, c'est ça la création. C'est ça faire place à la création. C'est justement accueillir l'inattendu. Donc, voilà, la fragilité, nous dit le pape, ce n'est pas à réparer. La fragilité à laquelle on est confronté aujourd'hui, et on est dans une situation d'extrême fragilité, d'extrême gravité, parce que c'est vrai que la menace qu'il y a aujourd'hui sur la Terre, c'est une menace, certes, et d'extrême gravité, qui risque de faire exploser la Terre et de ne pas permettre la vie des générations futures. C'est vrai, mais face à cette fragilité, justement, il ne faut pas essayer de protéger ce qu'on a pour le faire durer. Tout le contraire. Il faut justement profiter de cette fragilité pour inventer du nouveau, pour expérimenter, pour tâtonner et pour inventer des nouvelles manières de vivre ensemble, pour inventer des nouveaux types de relations avec la nature, avec soi, avec les autres et avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité-là et c'est une opportunité historique. Si, vous savez, c'est quand ça ne marche pas qu'on se met à inventer du nouveau. Et ça, c'est ce qui arrive dans toutes nos vies. Pensez à la vie de chacun de vous, c'est quand on a un projet qui échoue ou quand on a quelque chose qui casse, qui ne marche pas, ou même quand il y a une séparation, une rupture, c'est à ce moment-là que vraiment on se pose la question, est-ce que je peux faire autrement? Quand ça marche, on fait tourner, parce que ça marche. Donc c'est quand ça ne marche pas, que vraiment on se met à inventer du nouveau. Et donc c'est ça que nous dit le pape. Tout est fragile. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité historique justement de créer des nouvelles manières de vivre ensemble, de créer des relations avec la nature autres qu'instrumentales, de créer justement, de vivre, de faire l'expérience d'une spiritualité qui soit complètement incarnée et associée aux autres relations que nous avons avec les autres créatures. Donc c'est ça l'opportunité que nous avons aujourd'hui. Vous savez, l'encyclique commence, c'est dans les premiers chapitres, les premiers articles de l'encyclique, le pape François rappelle ce verset de la lettre des Romains de saint Paul, qui est très connu, on l'a lu récemment dans les textes du dimanche, c'est « La création est en douleur d'enfantement ». Et il dit « C'est ça qu'il faut aujourd'hui penser, cette création qui crie de douleur, et c'est des douleurs atroces, mais c'est des douleurs d'enfantement, c'est-à-dire ces douleurs sont des douleurs qui ne disent pas la menace mais plutôt la promesse. C'est des douleurs qui invitent à transformer la menace en promesse. Cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est justement une situation dans laquelle on a plus que jamais l'opportunité d'inventer du nouveau. Donc voilà, tout est fragile et là je le mets en lien avec une autre notion qui est aussi une notion qui apparaît très souvent dans Laudato aussi, que c'est la notion de maison commune. Maison commune. Le pape a parlé beaucoup dans l'encyclique de maison commune pour dire notre terre est une maison commune et notre maison commune. Et si je le mets en lien avec ce principe de tout est fragile, c'est pour dire que justement la maison commune c'est pas uniquement un lieu à fabriquer, c'est justement un lieu à habiter. Je trouve très beau qu'il utilise ce mot de maison pour parler de la Terre, pour parler de la planète. Il faut que ce soit une maison. Vous voyez, la maison, c'est son chez-soi. La maison, c'est justement où on se sent à l'aise parce que c'est mon chez-soi. Et en fait, quand il dit la Terre devrait être une maison commune, ça veut dire qu'il faudrait que toute créature sur Terre puisse se sentir comme chez soi. Que toute personne, que tout animal, que toute plante, que toute créature sur Terre puisse se sentir comme chez soi. Donc c'est ça l'idée de maison commune. Et cette maison commune, ce qui fait la maison, ce n'est pas la solidité des murs, c'est comment on habite ensemble. C'est cette idée d'habitation, c'est la relation qu'il y a entre nous. C'est ça qui est central pour construire la maison commune. Et c'est ça qu'il faut réinventer. C'est ça qu'il faut recréer. Des relations qui nous permettent à chacun de se sentir sur Terre comme chez soi. Donc voilà, et tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Et associé à ces trois grands concepts qui sont au cœur de Laudato si, que sont l'écologie intégrale, la conversion écologique et la maison commune. Et voilà, c'est, je pense, comme je disais, c'est une lecture de Laudato Si, c'est une manière de voir ce qui, pour moi, est vraiment transversal dans toute la pensée et la réflexion que nous propose le pape, et que je pense qui, à moi, en tout cas personnellement, face à cette situation tragique, face à laquelle on est confronté. Et voilà, moi, ça me donne de l'espérance pour dire, voilà, et on a plus que jamais la possibilité d'inventer du radicalement nouveau. Et c'est ça à quoi nous invite le pape François. Merci beaucoup.